VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 mai 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson, pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, des tirs nourris entendus depuis tôt ce matin à la prison centrale de Makala à Kinshasa.
Toujours en RDC, le gouvernement de Bruno Tshibala a été investi hier par l'Assemblée nationale.
En République centrafricaine, inquiétude grandissante suite à la nouvelle flambée de violence à Bangassou.
Au Niger, arrestation d'un membre de la société civile et d'un responsable politique.
Nouvelle controverse à Washington, le président Donald Trump aurait, selon le New York Times, demandé à l'ex-directeur du FBI de mettre un terme à une enquête fédérale.
Et puis le président Trump prononcera dimanche prochain à Riyad un discours sur une vision pacifique de l'islam. Et en Afghanistan, le siège de la télévision publique attaqué dans l'Est.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo et selon Radio Okapi, des tirs nourris sont entendus depuis tôt ce mercredi 17 mai à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Des sources sur place parlent d'une évasion massive des détenus qui a poussé les militaires affectés sur cet établissement à ouvrir le feu. Des éléments de la police, dépêchés sur les lieux, ont bouclé le quartier où se situe cette maison pénitentiaire. Sur la radio Top Congo, le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, parle d'une attaque des miliciens de Bundu Dia Congo qui a permis à une cinquantaine de prisonniers de s'évader de la prison. Le ministre précise que ces miliciens ont attaqué la prison de Makala vers 4h du matin pour libérer leur leader. Né Mwanda Nsemi, leader de ce mouvement politico-religieux, s'est échappé avec d'autres détenus, indique Top Congo.
Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement de transition investi mardi à Kinshasa par les députés nationaux au terme d'une plénière qui a duré 9h et qui a été marquée par la sortie de la salle d'une centaine de députés de l'opposition. Le Premier ministre Bruno Tshibala a reçu le feu vert des élus pour conduire le pays vers des élections durant cette période de transition. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
336 voix pour, une seule abstention, 0 voix contre, c'est le résultat du vote qui a sanctionné l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala à l'Assemblée nationale ce mardi 16 mai 2017. En dépit de la controverse suscitée par le rejet de la motion incidentielle du député de l'opposition Koko Moulongo, ce qui a poussé les députés de l'opposition à quitter l'hémicycle à coups de sifflets et de vuvuzelas, le gouvernement d'Union nationale chargé de conduire la RDC vers les élections fin 2017, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, a bien reçu le feu vert des députés après la présentation par le Premier ministre de son programme. Concernant les élections, Bruno Tshibala a affirmé que son gouvernement a pour ambition d'offrir à la RDC les meilleures élections de son histoire dans le délai convenu. Le social, il en a également été question lors de cette cérémonie d'investiture. Alors que la crise a atteint des proportions inquiétantes avec la dépréciation quotidienne du franc congolais, Bruno Tshibala a annoncé une batterie de mesures urgentes pour arrêter l'hémorragie. Le gouvernement de transition entre donc en fonction dans un contexte particulier. Le rassemblement que dirige Félix Tshisekedi a qualifié sa nomination de violation manifeste de l'accord du 31 décembre 2016. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, la nouvelle flambée de violence a fait au moins 26 morts à Bangassou, en plus des 6 casques bleus tués la semaine dernière. Des détails avec Abdourahmane Dia.
La mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA, a fait état de 26 morts dans l'attaque samedi d'un groupe armé contre le quartier musulman de Bangassou. Antoine Bao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine, affirme de son côté que ses équipes ont enterré 115 victimes. Médecins sans frontières a évoqué la présence de 17 cadavres dans une mosquée où la MINUSCA a libéré lundi des civils qui y avaient trouvé refuge après l'attaque d'une milice anti-Balaka. Samedi, un casque bleu marocain a été tué. 5 autres, 4 Cambodgiens et un autre Marocain, avaient péri dans l'attaque de leur convoi le 8 mai dernier. Pour le général Bala Keïta, commandant de la force onusienne, le pire a eu lieu à Bangassou et ses hommes ratissent la zone à la frontière avec la République démocratique du Congo. Selon la HCR, au moins 2750 réfugiés centrafricains sont arrivés ces derniers jours dans l'extrême nord de la RDC.
En Côte d'Ivoire, la mutinerie est terminée, mais le bilan s'est alourdi à 2 morts suite au décès d'un blessé à l'hôpital de Korogo. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le directeur du centre hospitalier régional de Korogo, Drissa Koulibaly Fandehe, a déclaré qu'un jeune homme blessé vendredi est décédé hier. Siaka Kone, 19 ans, a été touché par balle au début de la mutinerie alors qu'il circulait en moto près d'une caserne. Une autre personne, un ancien rebelle démobilisé, est mort dimanche à Boaké des suites de ses blessures. La victime avait été atteinte d'une balle tirée par les mutins. Lundi soir, en annonçant un accord, le ministre de la Défense Alain Richard Donwahi avait souligné que la grogne des militaires avait entraîné des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vies humaines. Les soldats qui réclamaient des primes ont obtenu satisfaction et ont accepté hier de regagner les casernes. Ils avaient lancé leur mouvement vendredi, paralysant plusieurs villes du pays.
Au Niger, un acteur de la société civile et un responsable politique sont aux arrêts. Il est reproché au premier, membre d'un mouvement dit pour la révolution démocratique, le délit d'incitation à la révolte populaire. Quant au second, président du regroupement des partis de l'opposition, on ignore les raisons de sa garde à vue à la police judiciaire de Niamey, nous dit notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Abdramane Issar, le militant du mouvement pour la révolution démocratique au niveau de la région d'Agadez, est lui fixé sur son sort. Il a en effet été présenté après une garde à vue de 48 heures à un juge qui l'a inculpé et placé sous mandat dépôt pour le chef d'accusation d'incitation à la révolte populaire suite à une publication sur Facebook. Le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le regroupement des partis politiques de l'opposition, Amadou Djibo Ali Dimax, est lui au terme ce mercredi. Mercredi matin des 48 premières heures de sa garde à vue à la police judiciaire de Niamey sans savoir ce qu'on lui reproche selon des responsables de l'opposition qui étaient mardi après-midi face à la presse. Pour ces derniers, le régime en agissant ainsi a touché le fond de l'intolérable et sera responsable de ce qui adviendra après l'expiration des délais réglementaires de la garde à vue. L'opposition a exigé, comme un collectif d'organisation de la société civile, la libération de Max et de tous ceux qui sont privés de leur liberté pour leur opinion. Vendredi dernier, le président du FRDDR a sévèrement critiqué le régime en place au cours d'une activité du principal parti de l'opposition, le Modern Lumana Africa de Hama Amadou. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche, de nouveau sur la défensive, le New York Times a publié hier un article soutenant que le président Donald Trump avait demandé en février à l'ex-directeur du FBI, James Comey, de mettre fin à l'enquête sur l'ancien conseiller en matière de sécurité nationale, Michael Flynn. Ce dernier a été démis de ses fonctions pour avoir induit en erreur le vice-président Mike Pence sur ses liens avec la Russie. L'administration Trump a qualifié de fausses les allégations du Times, qui ont été confirmées par la suite par le Washington Post. Mais ces informations ont suscité de nouvelles préoccupations, selon lesquelles Donald Trump tenterait de faire obstruction à une enquête que menait M. Comey sur une éventuelle collusion entre la campagne de M. Trump et les Russes en 2016. James Comey a lui-même été limogé ce mois-ci par le président Trump.
Et le président américain a reçu hier à la Maison-Blanche son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Il s'est félicité de la solidité des liens entre leurs deux pays, tout en minorant leurs divergences de vues sur la lutte contre les extrémistes du groupe État islamique. Ni M. Trump ni M. Erdogan n'ont en effet mentionné la décision du président américain de fournir des armes lourdes aux miliciens rebelles kurdes, qui constituent une force clé au sein de la coalition soutenue par les États-Unis pour la reprise de Raqqa, la capitale de facto des djihadistes. Ankara considère ces miliciens comme des terroristes.
En Afghanistan, des assaillants armés ont attaqué ce matin le siège de la radio-télévision afghane au cœur de Jalalabad, capitale de la province instable de Nangarhar dans l'Est, a rapporté un responsable.
Lors de son premier déplacement à l'étranger, le président américain Donald Trump prononcera dimanche prochain à Riyad, en Arabie Saoudite, un discours sur une vision pacifique de l'islam. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Ce discours sera prononcé devant les dirigeants de plus de 50 pays musulmans. Une véritable tribune pour le président américain qui devrait insister sur l'engagement des États-Unis envers ses partenaires musulmans. Le général McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a donné quelques détails supplémentaires. Donald Trump s'exprimera également sur la nécessité d'affronter les idéologies radicales et sur ses espoirs pour une vision pacifique de l'islam. Le discours du président américain est particulièrement attendu, les détracteurs de Donald Trump lui reprochant son décret anti-immigration qui, selon eux, attise l'islamophobie. Le président américain entame samedi à Riyad son premier déplacement hors des États-Unis, qui le mènera aussi en Israël et au Vatican. Autre étape obligée pour le président américain, le sommet de l'OTAN à Bruxelles et le sommet du G7 à Catane en Sicile.
Aux Nations Unies, la représentante permanente des États-Unis a averti les autres pays qu'ils doivent se joindre aux efforts pour empêcher une Corée du Nord nucléarisée. Ils pourraient eux-mêmes faire face à des sanctions s'ils aident Pyongyang à réaliser son objectif. Nikki Haley parlait en prélude à une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Coup d'envoi hier au Cameroun des travaux de reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, un tronçon de 52 km reliant Yaoundé à la frontière est du Nigeria. Le projet bénéficie d'une aide financière de la Banque mondiale à hauteur de 60,7 milliards de francs CFA. Cette rénovation vise à lutter contre les accidents de la route, mais aussi et surtout à diminuer les durées de transit à travers les régions de Bafoussam et de Bamenda pour faciliter leurs activités dans les domaines agricoles et du commerce. Le géant suisse d'extraction de matières premières, Glencore, et le groupe américain de gestion d'actifs mondiaux, Carlyle, se sont associés pour tenter de racheter la Samir, l'unique raffinerie de pétrole du Maroc, mise en liquidation judiciaire depuis juin dernier, après des dettes colossales. Des milliers de salariés ont été contraints au chômage technique. Les deux multinationales cherchent avant tout à récupérer environ 600 millions de dollars de prêts qu'elles ont octroyés à la raffinerie avant qu'elle ne fasse faillite. La Commission européenne a annoncé hier la mise en place à compter du 1er juillet de mesures pour mettre fin au commerce d'ivoire brut à partir de l'UE en recommandant à ses membres de ne plus délivrer de documents d'exportation. Le commerce d'ivoire et les moyens de lutte contre le braconnage divisent les pays africains. Le continent est vu comme étant impuissant à freiner le trafic en direction de l'Asie.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cannes des moins de 17 ans au Gabon, deuxième journée.
Oui, les Panthères gabonaises vont-elles se remettre de la claque infligée par la Guinée lors du premier match du groupe A ? Réponse tout à l'heure à Port-Gentil face au Ghana. Les jeunes Ghanéens qui pourraient prendre une option sur la qualification si dans le même temps la Guinée bat le Cameroun. Les Camerounais en avaient pris 4 lors du premier match.
À suivre ce mercredi, la finale de la Coupe d'Italie.
La Juventus Turin, proche d'un nouveau titre de champion d'Italie et qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, peut s'offrir son premier trophée de la saison ce soir face à la Lazio de Rome en Coupe d'Italie, coup d'envoi 19h temps universel. Ce duel au stade olympique prend des allures de revanche pour les Romains. En finale, il y a 2 ans, ils avaient été battus par les Turinois à l'issue des prolongations. La Juve est double tenante du titre, tandis que la Lazio va disputer sa 3e finale en 5 ans, dont un sacre face à la Roma. C'était en 2013.
En Angleterre, c'est match en retard.
Dans leur duel à distance pour la Ligue des Champions, Manchester City et Arsenal ont tous les deux gagné hier face à West Brom. 3 buts à 1 pour les Citizens et 2 buts à 0 contre Sunderland pour les Gunners. Les Gunners n'auront pas leur destin entre les mains lors de la dernière journée. Tout se jouera dimanche et Liverpool, 3e avec 73 points, entrera alors dans la danse.
Masters de Rome, le numéro 1 mondial Andy Murray éliminé d'entrée par Fabio Fognini.
Andy Murray a disparu d'entrée à Rome hier soir, emporté en 2 manches par la tornade Fabio Fognini. Le score 6-2, 6-4 en 1h33 minutes de jeu. L'Écossais continue d'interroger à moins de 2 semaines de Roland Garros. Et puis la NBA avec vous, le championnat de basket nord-américain Idrissa, seconde manche de la finale de la Conférence Ouest hier soir.
Les Golden State Warriors ont de nouveau massacré les San Antonio Spurs, 136-100, et mènent la série 2-0. «
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les médecins syndicalistes ont dénoncé au deuxième jour de grève dans les hôpitaux publics les cas d'intimidation et les pressions extérieures visant, selon eux, à étouffer leurs revendications. Le point sur cette situation avec Emmanuel Jules-Tap à Yaoundé.
Mardi, à mi-journée, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé. Officiellement, le ministre serait venu présider une réunion de travail. Rien à voir avec la grève des médecins, selon un responsable de la structure qui a requis l'anonymat. Hier, certains médecins de cet hôpital ont été aperçus avec un brassard noir en guise d'adhésion à la grève. Et dans les services de diabétologie et de neurologie ce jour, certains médecins n'ont pas reçu les patients. Qu'est donc venu faire le ministre de la Santé publique à l'hôpital central de Yaoundé dans un contexte de grève? Pour Dr Basson, président du syndicat des médecins du Cameroun, joint au téléphone depuis Bamenda, en zone anglophone du Cameroun, cette descente sur le terrain est loin d'être anodine.
Pourquoi tout cela? Tous ces directeurs-là ont tenu de parler au Cameroun hier matin des réunions. Pourquoi ils tiennent tous des réunions le même jour, la même heure le matin? Histoire de faire sortir les médecins de leur lit et de les inviter à l'hôpital. Le gouverneur devait aller aujourd'hui à l'hôpital à la cantine de Douala. Mais on se rend compte qu'il y a des menaces. On appelle certains médecins au téléphone de la maison de venir à l'hôpital. Ils passent de service en service avec des listes et ils disent aux médecins, si tu grèves, je crie ton nom. Si tu grèves pas, je crie pas ton nom. Mais il y a autant d'intimidation.
Déjà, à moins 5 jours du début du mot d'ordre de grève dans les hôpitaux publics, les trois principaux responsables du syndicat des médecins du Cameroun avaient été affectés dans les zones les plus reculées du pays sous décision du ministre de la Santé publique. Parmi eux, Dr Patrick Ndoudoumou, secrétaire général du syndicat de passage à Yaoundé.
Qu'avons-nous fait pour mériter ces affectations disciplinaires? Est-ce parce que nous avons demandé que le médecin ne touche plus 105 685 francs? Est-ce parce que nous avons demandé que les médecins ne soient plus affectés sans salaire? Est-ce parce que nous avons demandé de maintenir les médecins plus longtemps en fonction de passer l'âge de la retraite de 55 à 65 ans, ou alors est-ce parce que nous avons dit l'assurance maladie, c'est urgent, ça devient urgent parce que les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens.
Dimanche, à la veille de la grève, une intervention du président du syndicat des médecins du Cameroun sur le plateau de la chaîne de télévision privée Canal 2 International avait été annulée à la dernière minute. Nos sources bien informées et sous anonymat dans cette chaîne recusent cette version des faits et parlent plutôt de pression extérieure visant à étouffer la grève des médecins au Cameroun. Pour sa part, le gouvernement camerounais maintient que le syndicat qui appelle à la grève des médecins dans les hôpitaux publics est illégal. Yaoundé, Emmanuel Jolontap, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte la récente vague de mutineries en Côte d'Ivoire. Des tirs à Boaké, Abidjan et Korogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutins. Le bras de fer reste intense entre ces militaires et le gouvernement. Qui sont les mutins? Que veulent-ils? Où en est la réforme de l'armée? L'État ivoirien a-t-il réglé définitivement cette crise? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec Tatiana Mosso et ses invités.
Les Nations Unies ont annoncé lundi qu'une contribution de 1,4 milliard de dollars serait nécessaire cette année pour aider 1,8 million de réfugiés qui ont fui la guerre et la famine au Soudan du Sud. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial ont demandé à Genève une rallonge de 200 millions de dollars par rapport au plan initial de 1,2 milliard de dollars pour faire face à cette crise. Pour savoir si les personnes dans le besoin bénéficient réellement de l'aide telle que réclamée, Eric Manirakiza a joint un ancien haut fonctionnaire à l'ONU, actuellement à la retraite, Ismaël Diallo.
Cela dépend de ce à quoi va servir ce montant. Si c'est un appoint à ce qui existe déjà, cela est compréhensible. Mais si c'est pour commencer vraiment à s'occuper de ces personnes-là pour une nouvelle période d'un an, ça ne fait que quoi, que 2 dollars peut-être par personne, par jour pour un an, ce qui n'est pas beaucoup pour des réfugiés. Il faut ajouter à cela que les Nations Unies, les organisations comme la plupart de nos administrations dans nos pays, des montants de ce genre servent davantage aux salaires, aux équipements, etc. de l'administration. l'administration publique plutôt que des personnes elles-mêmes. Et c'est dommage.
Et finalement, l'aide n'arrive pas aux bénéficiaires, disons, des montants qui sont sur le papier.
L'aide arrive aux bénéficiaires, mais en très petite quantité. J'ai travaillé dans environ 6-7 missions de paix des Nations Unies. Et je vous dirais que le grand problème, c'est le manque de checks and balances, comme on dirait, le manque de accountability. Il y a énormément de complaisance, de laisser faire et de laisser aller. Dans ces missions de paix, il y a beaucoup de déperditions. Une gestion plus rigoureuse produirait plus d'effets au niveau des personnes concernées. Malheureusement, la majorité de ces fonds servent plutôt au confort du personnel de la mission plutôt qu'au bien-être des réfugiés.
Est-ce que c'est connu au niveau de la haute hiérarchie onusienne?
La haute hiérarchie onusienne ne peut pas prétendre ne pas être au courant. Mais vous savez, c'est entre copains et coquins. Alors, malgré les grandes déclarations, malgré les slogans de zéro tolérance en ceci, en cela, la vie continue comme elle l'était.
Finalement, c'est une aide humanitaire qui ne sert pas à grand-chose.
Elle servira, mais pas à grand-chose, comme vous dites. Mais ça ne changera pas beaucoup pour les réfugiés eux-mêmes. Déjà que le PAM annonce, ou la mission annonce, que la ration des réfugiés qui sont en Ouganda, environ 900 000 personnes, a été réduite déjà. La ration des réfugiés est réduite, certainement, et c'est dommage, mais je vous garantis que la ration du personnel des Nations Unies n'a pas été réduite.
Et finalement, comment régler cette situation?
Il faut régler cette situation en ayant véritablement une exigence de résultat aux Nations Unies. Pour chaque dollar donné aux Nations Unies, il faut savoir à quoi cela a servi et quel est l'impact réel sur les personnes qui sont visées. En plus de cela, il faut regarder les contrats que les Nations Unies elles-mêmes ont avec des compagnies privées qui s'occupent de la logistique, de l'achat des biens. Il y a tellement d'arrangements de dessous de table, de magouilles dans ces opérations. Et aussi, enfin, je pense subitement au président Alpha Condé de Guinée, qui est actuellement le président de l'Union africaine, qui, à Paris, il n'y a pas longtemps, se plaignait du nœud gordien qui existait encore entre la France ou l'Occident et l'Afrique, et qui disait qu'il faut que les Africains s'occupent de leurs affaires. Et bien voilà une belle occasion pour que les Africains s'occupent de leurs affaires, qu'ils aillent, eux, arrêter la guerre au Soudan du Sud et qu'ils aident les réfugiés soudanais du Sud.
Ismaël Diallo, ancien haut fonctionnaire à l'ONU, actuellement à la retraite, joint en Géorgie aux États-Unis. En collaboration avec la Maison africaine de la photographie au Mali, l'Université d'État du Michigan, ici aux États-Unis, à travers ses équipes du Centre des arts et des lettres et des sciences sociales en ligne, Matrix, a permis de numériser, cataloguer, préserver et rendre accessible à un large public 100 000 images rares des archives originales de 5 photographes professionnels. Ce projet vise à répondre d'une part aux besoins prioritaires pour la recherche et l'enseignement, mais aussi à répondre aux besoins de préservation du patrimoine culturel du Mali. Compte rendu de Kassim Traoré.
L'ambassadeur des États-Unis au Mali et le ministre de la Culture ont procédé au Musée national de Bamako au lancement d'un site internet et le vernissage de l'exposition ici des archives de 5 photographes professionnels maliens, à savoir Malik Sidibé, Adama Kouyaté, Tidjane Situ, Abdramane Sakali et Mamadou Sissé.
Candace Keller, je suis une professeure aux États-Unis. Nous avons travaillé ensemble pour choisir les photos. Nous avons nettoyé, catalogué, numérisé et c'est 25 000 négatifs originaux de chaque photographe. Nous avons travaillé avec 5 photographes ensemble. C'est la famille même qui a choisi l'image que nous avons travaillée dans ce projet.
Ce projet d'archives de la photographie malienne est financé par un fonds provenant du National Endowment for Humanity du gouvernement américain. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Ce projet vise aussi à rendre accessible à l'échelle mondiale les archives des photographes les plus importants du Mali. Ces images seront désormais accessibles aux quatre coins du monde, deviendront pérennes et il suffira d'un seul clic pour découvrir tout un pan de la culture malienne. Le gouvernement des États-Unis se réjouit d'avoir soutenu ce projet qui permettra au monde entier de découvrir la richesse riche culture du Mali.
Si le problème de la préservation et de la conservation est un acquis, il y a la protection des familles de photographes qui n'a pas été discutée. Youssouf Sakali, porte-parole des familles de 5 photographes.
En effet, il s'agit de la protection des familles détentrices d'archives, car combien de ces familles sont déjà déchirées aujourd'hui ou sont sur le point de l'être, fait qu'ils ne maîtrisent pas l'exploitation de leurs fonds? Combien de familles sont à la merci d'exploitants commerciaux? Je parle des agences de photographie, certaines, bien sûr, pas tous, qui sont vraiment sans scrupules. Combien d'expositions aujourd'hui avec les archives de Malik Adama Kouyaté ou de mon père qui sont organisées dans le monde sans que la famille ne soit informée, sans qu'aucun compte rendu, même a posteriori, ne soit effectué? Combien de familles ont vu leur archive physique partir à l'étranger et ne jamais revenir?
Le ministre de la Culture du Mali a salué la vitalité des relations entre le Mali et les États-Unis, mais singulièrement dans le domaine de la culture. Ndiaye Ramatoulaye Diallo.
Je voudrais avant tout saluer cette belle initiative qui a permis d'assurer le traitement, la conservation et la préservation de documents photographiques anciens réalisés par les photographes maliens et les rendre plus accessibles aux artistes, chercheurs et universitaires à travers le monde. Je reste convaincue que les archives des photographes cités seront mieux conservées, que les droits des détenteurs de ces fonds ou leurs ayants droit seront entièrement respectés.
À travers le vernissage de l'expo, les visiteurs ont vu les images qui documentent les pratiques traditionnelles, culturelles et religieuses, les festivals ruraux, les impacts coloniaux et les processus de modernisation des villes comme Bamako, Mopti et Ségou. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les compagnies agroalimentaires emploient beaucoup d'immigrants hispaniques, souvent venus illégalement dans le pays. L'application plus vigoureuse des lois de l'immigration par l'administration Trump commence à affecter ces derniers, mettant en difficulté leurs employeurs. De l'État de Pennsylvanie, un reportage de Bill Rogers, présenté par Timothée Donangmaï.
Dans le comté d'Adams, dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, c'est la saison d'émondage des pommiers. Ici, comme dans d'autres régions des États-Unis, peu de citoyens américains acceptent ce dur labeur. Ce sont donc des migrants hispaniques qui le font, souligne Kay Olabo, qui aide à gérer un complexe agricole familial et qui s'inquiète de la situation de ses ouvriers.
If my immigrant workforce is taken away,
si on m'arrache mes ouvriers immigrés, je n'aurai plus personne pour récolter les fruits et les légumes. Et ce sera la fin de notre exploitation. 75 personnes perdraient leur emploi et ma famille qui vit ici depuis plus de 60 ans perdra tout.
Nombre d'ouvriers de la ferme des Olabo vivent à York Springs, localité voisine d'environ 800 habitants. Effrayés par les récentes descentes des agents de l'immigration, ils sortent peu ces jours-ci, explique l'un d'entre eux du nom d'Arturo.
Avant, c'était plus détendu. Les gens pouvaient aller et venir sans crainte. C'est très différent maintenant. Les gens se cachent. Ils sont pour la plupart retournés dans leur pays d'origine avant qu'il ne leur arrive quelque chose.
La société Rice Fruit Company, spécialisée dans le conditionnement des fruits et légumes, emploie aussi des migrants latino-américains de York Springs, une centaine en temps normal et le double pendant les périodes de récolte. L'anxiété est grande, même si tous les employés de Rice Fruit Company sont en règle avec l'immigration, affirme David Rice, le PDG de la compagnie.
C'est malheureux pour ces gens, d'excellents travailleurs et d'excellentes personnes qui contribuent beaucoup à l'économie locale, la culture de la pomme en particulier.
Selon une étude, l'industrie fruitière génère 580 millions de dollars par an et près de 20 000 emplois dans le comté d'Adams. Et si les migrants commencent à partir, David Rice dit qu'il sera obligé de réduire le personnel de sa compagnie pour se concentrer sur les activités les plus rentables. Récemment, une manifestation de soutien aux travailleurs migrants a eu lieu à Gettysburg, chef-lieu du comté d'Adams. La société Rice Fruit Company était l'un des sponsors.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.